Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour à tous. Quel Irak après Daesh? La question sera au centre aujourd'hui d'un déplacement à Bagdad de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, et Florence Parly, ministre de la Défense. Tous deux sont arrivés hier soir dans la capitale irakienne où ils doivent rencontrer les principaux dirigeants du pays. Pour la France, il s'agit de participer donc à la reconstruction de l'Irak, mais aussi de soutenir la présence de nos soldats présents dans les opérations qui se poursuivent. Claude Guibal.
C'est un voyage qui intervient à un moment clé alors que l'armée irakienne continue son avancée dans Tel Afar, le dernier gros bastion tenu par les djihadistes dans la plaine de Ninive. Un assaut auquel la France participe au sein de la coalition en multipliant les missions d'artillerie. Au Levant, ce sont 1200 soldats français, 12 rafales qui sont déployés dans le cadre de l'opération Chamal, des hommes qui appuient aussi l'après-combat, comme à Mossoul, où il faut dépiéger la ville truffée de mines par les djihadistes. Mossoul, où des membres des forces spéciales sont aussi là, en arrière-plan, pour participer à l'identification de djihadistes et d'éventuelles cellules dormantes. Ces avancées militaires sont une chose, mais la gestion politique de cette reconquête par le pouvoir irakien en est une autre. Qui pour administrer ces zones reconquises? L'armée nationale irakienne, les milices chiites, les Kurdes, chacun des libérateurs veut sa part. La France, comme d'autres pays membres de la coalition, voit avec inquiétude le flou qui entoure l'après-combat, sujet central pour Jean-Yves Le Drian et ses interlocuteurs irakiens.
Claude Guibal, et l'armée irakienne qui a annoncé hier soir que ses soldats, appuyés donc en partie par l'armée française, sont entrés dans le centre de Tal Afar et ont chassé les combattants djihadistes des trois quarts désormais de la ville. La reconstruction en est encore très loin au Yémen, plus que jamais déchiré par la guerre, un conflit qui dure depuis plus de deux ans maintenant et qui n'épargne pas les civils. Hier, un nouveau raid aérien a fait au moins 14 morts, dont des enfants, dans la capitale Sanaa. Cela porte à 56 le nombre de civils tués en une semaine au Yémen, Nabila Hamel.
Ce bombardement aérien a visé Faj Atan, un quartier sud de la capitale yéménite contrôlé par les rebelles chiites houthis. L'ONU a appelé une nouvelle fois les belligérants à éviter les cibles civiles. Son secrétaire général adjoint, Stephen O'Brien, s'est inquiété d'un nombre de raids qui a triplé mensuellement par rapport à 2016. Les attaques aériennes sont imputées à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, mais si elle a reconnu dans le passé des erreurs qui ont causé la mort de civils, son porte-parole a affirmé que les cibles visés ces derniers jours étaient des activistes armés. L'ONU répond pourtant que dans tous les cas mentionnés, les témoins ont spécifié qu'il n'y avait aucun avertissement d'une attaque imminente. La guerre au Yémen oppose les forces loyalistes du président Abd Rabbo Mansour et l'alliance militaire arabe qui le soutient aux rebelles chiites houthis alliés à l'ancien président Ali Abdellah Saleh. Tout cela sur fond de rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, accusés par Riyad de soutenir les rebelles. Mais depuis quelques mois, le camp rebelle est lui-même fragilisé car les Houthis soupçonnent l'ex-président Salé de vouloir négocier derrière leur dos avec la coalition. Depuis mars 2015, le conflit au Yémen a fait 8400 morts et 48 000 blessés, sans compter les destructions des principales infrastructures du pays. Une des conséquences de cette situation est la très grave crise humanitaire et dernièrement l'épidémie de choléra qui a fait 2000 morts depuis le mois d'avril.
Le Yémen, où un hélicoptère américain de type Black Hawk s'est écrasé en mer hier. Un GI a été tué, un autre est porté disparu. Le crash a eu lieu pendant un entraînement de l'aviation américaine qui mène depuis la fin du mois de février des raids contre les positions d'Al-Qaïda au Yémen. Il faudra des jours avant de mesurer l'ampleur des dégâts au Texas, l'état du sud américain frappé depuis quelques heures par l'ouragan Harvey, présenté comme le plus violent dans la région depuis Katrina, c'était en 2005. Sur la côte du golfe du Mexique, dans la région de Corpus Christi, les vents à plus de 200 km/h sont accompagnés de pluies torrentielles qui pourraient durer deux ou trois jours. Les autorités locales craignent d'ailleurs particulièrement des inondations catastrophiques et meurtrières. Pas question de laver son linge sale en public. Le Parti Socialiste réunit ses cadres à huis clos ce week-end à Paris. C'est un séminaire dit de refondation. Après avoir été laminé à la présidentielle et aux législatives, le Parti à la rose doit se trouver un avenir. Mais ça ne se fera pas sans solder les comptes du passé hollandiste, Frédéric Saïs.
C'est l'un des traditionnels lieux de retrouvailles des cadres socialistes. La Maison de la Chimie à Paris aura pourtant rarement accueilli des troupes aussi déprimées. Le PS, humilié avec ses 6% à la présidentielle, a perdu ses principales figures. Benoît Hamon a fondé son propre mouvement, Manuel Valls a rejoint En Marche et Jean-Christophe Cambadélis a quitté la tête du parti. Du côté du programme, les socialistes sont toujours pris en tenaille entre la France insoumise d'un côté et la République en marche de l'autre. Sans leader et sans ligne commune, le parti va donc tenter de se doter d'un calendrier, faute de mieux. Des discussions sont prévues cet après-midi entre les membres de la direction collégiale du parti, une quinzaine de cadres, dont les anciennes ministres Carole Delga et Laurence Rossignol, l'ancien valsiste Luc Carvounas ou le tenant de l'aile gauche Emmanuel Morel. Selon nos informations, un préaccord a déjà été trouvé. Les militants seraient appelés aux urnes le 28 septembre pour ratifier une feuille de route qui prévoit ensuite des assises du socialisme à l'automne et un congrès refondateur en janvier 2018. Cette perspective commence d'ailleurs déjà à mobiliser les différentes chapelles. Stéphane Le Foll, l'un des plus proches de François Hollande, ne s'en cache plus. Il compte bien jouer un rôle décisif à l'occasion de ce congrès. L'aile gauche du parti, elle, veut en finir avec la ligne pro-entreprise. Alors, quelle gauche de gouvernement dans l'avenir? Pour répondre à cette question, le bilan et l'héritage du hollandisme feront partie des clivages majeurs de la reconstruction qui s'annonce.
Frédéric Saïs, à droite, la pré-rentrée politique se fait en ordre dispersé avec l'aile sarkozyste du Parti Les Républicains qui se réunit ce week-end au Touquet. Les jupéistes sont rassemblés aujourd'hui à Bordeaux. À Barcelone, la foule des grands jours attendue en fin d'après-midi pour dire non au terrorisme, non à la peur et à la division. Et ce, 9 jours après les attentats des Ramblas et de Cambrils. Un rassemblement qui intervient aussi alors qu'hier soir à Bruxelles et à Londres, 2 hommes armés de couteaux ont agressé des policiers et des militaires. L'assaillant de la capitale belge a été abattu. Celui de Londres a été interpellé devant le palais royal de Buckingham. À chaque fois, les enquêteurs retiennent la qualification terroriste, mais évoquent des actes isolés. Le temps pour ce samedi, instable et localement très chaud. L'alerte orange canicule est d'ailleurs étendue du Rhône à la Loire et au Puy de Dôme. Les grisailles du matin de la Bretagne aux frontières belges vont laisser place à de belles éclaircies et des températures cet après-midi entre 21 et 25 degrés. À mesure que l'on descend vers le sud, le thermomètre va grimper jusqu'à 31, voire 34 à 36 degrés pour le sud-ouest et la vallée du Rhône.